Merci Christine et Michael pour cette longue lecture. Bonjour à tout le monde. Content d'être avec vous. Content de voir que j'ai amené avec moi d'Angleterre quelqu'un d'autre sans le savoir. Elle s'appelle Maïva. Elle se trouve là dans le coin. Et elle était membre chez nous depuis un long moment. Et puis maintenant, elle habite à Oxford. Et content chez Maïva de te voir. J'espère qu'il y aura plusieurs qui te saluent à la fin de ce culte. Elle est cachée là-bas, donc ne la ratez pas, vous qui la connaissez par la suite. Je vais enlever mon masque. Je suis désolé que c'est toujours le cas, que vous ne pouvez pas encore vous enlever votre propre masque. J'espère que cela viendra dans les semaines, les mois à venir. Merci Thibault. Bon, je vais juste ajouter deux, trois choses au cas où cela est utile. On aimerait, si vous êtes avec nous en tant que visiteur ou arrivé récemment, peut-être vous vous demandez, mais écoutez, vous prenez la Bible au sérieux ici, vous lisez beaucoup de textes différents. Moi, je commence plutôt dans la foi chrétienne. Je vois qui est Jésus, je veux entendre un peu plus sur lui, je veux comprendre de quoi il s'agit, cet évangile dont parlait Adrien au début. Et si cela c'est vous, chers amis, j'aimerais vous inviter le jeudi soir à un parcours découverte. Peut-être déjà ce jeudi-ci, peut-être le jeudi en 8, en fonction un peu de disponibilité des uns et des autres. Donc venez me trouver ou Adrien après, et avec plaisir, on vous parlera donc de ce que c'est ce parcours découverte pour quelques semaines, 4-5 semaines, où on voit les fondements de la foi, on voit directement la personne de Jésus. Et ici, c'est le CD d'écriture. On a chanté plusieurs fois la chanson. Si vous ne savez pas que c'est en vente là-bas pour 10 euros, servez-vous. Payez 10 euros et ensuite servez-vous si vous le souhaitez. Et maintenant, j'ai complètement oublié de ce que j'étais en train de dire, mais ce n'est pas grave. Donc, on y va parcours découverte le jeudi soir avec plaisir. Donc, on y va, les amis. Je pense qu'on va prier ensemble, que le Seigneur nous aide à bien comprendre de quoi il s'agit ici dans ce magnifique récit que nous avons sous les yeux. Comme déjà dit, on va avoir un regard sur l'ensemble de ces trois chapitres. Donc, parfois, c'est plus utile d'avoir votre propre Bible allumée ou ouverte devant vos yeux plutôt que ce texte qui n'est que quelques morceaux de l'ensemble de cette histoire. À vous de voir comment vous voulez procéder. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons que ta parole révèle qui tu es. Et merci pour cette partie de ta parole. Et donne-nous donc de contempler la gloire de Jésus-Christ dans ta parole. Même si on parle de Joseph, de Judas et d'autres, donne-nous de voir à quel point tout cela nous mène à Jésus et à quel point cela nous aide à suivre Jésus en tant que disciple. Glorifie ton nom, nous te prions, Seigneur. Amen. Souvenons-nous, nous avons commencé au chapitre 37, cette série dans la Genèse cette fois-ci, lorsque Joseph, le premier de deux fils qu'avait Jacob avec la femme qu'il aimait, Rachel, il a deux rêves, ce Joseph, en ce qui concerne son avenir, que ses 10 frères, ceux nés d'autres femmes, Léa et les servantes de Léa et de Rachel, se prosterneront devant lui. Les frères se sont débarrassés alors de Joseph, vendu en esclavage à des Ismaélites, mais dans la providence de Dieu, sans que les frères le sache, Joseph se trouve dans la maison de Potiphar, un haut fonctionnaire du pharaon. D'ailleurs, il subit encore, souvenons-nous, une injustice aux mains de la femme de Potiphar. Et cela mène Joseph en prison. Mais c'est là que sa capacité, lui, d'interpréter des rêves, mène Joseph, après plusieurs années, dans la présence du pharaon lui-même. Et là, la bonne gestion de Joseph, sa capacité d'exercer l'autorité qui lui est accordée avec sagesse, avec bonté, comme nous disait Samuel la semaine dernière, fait que Pharaon élève Joseph au plus haut poste du gouvernement égyptien. Car oui, la famine dont prédisait Joseph au Pharaon arrive sur le pays d'Égypte, mais aussi sur toute la région autour. Et du coup, les frères de Joseph, quant à eux, qui continuent à ignorer totalement ce que Joseph est devenu, ils sont contraints de descendre en Égypte pour chercher du grain. Et Dieu, qui reste à l'arrière-scène, dans le sens où il n'est que peu mentionné dans ces chapitres, orchestre les événements pour que les frères croisent Joseph sans le savoir. Joseph, nous avons vu la semaine dernière, les reconnaît. Et donc, dès ce moment-là, l'ironie dramatique monte un cran dans cette histoire. Quand nous qui lisons cette histoire, nous savons plus que les frères savent. Nous savons plus même que Joseph, il le sait. Car Joseph également ignore ce qui est arrivé à son père, à son frère Benjamin. Et cela crée en nous, même avant d'arriver au chapitre 43, le début de notre texte aujourd'hui, ça crée en nous le désir de la réconciliation. Et nous avons hâte de savoir comment cela se produira, Joseph, son père et ses frères. Et Joseph concocte son plan de tenir Siméon en otage jusqu'à ce que les autres frères lui amènent Benjamin. Et en ce faisant, les frères révèlent en partie le ressenti de culpabilité en ce qui concerne l'abandon de Joseph il y a à peu près 20 ans. Le plan de Joseph permet de voir si ce ressenti de culpabilité se traduit pour finir en acte. Car ils pouvaient, les frères, laisser Siméon dans les mains d'un maître étranger, comme eux, ils ont fait, il y a 20 ans, avec Joseph. C'est le premier défi que Joseph la lance, si vous voulez, tout en pourvoyant avec grâce et générosité pour leur retour en Canaan. Quand ils remettent l'argent qu'ils ont amené pour acheter le grain. Et au verset 28 du chapitre 42, toujours avant notre texte, les frères disent à ce moment-là, quand ils découvrent l'argent que Joseph leur a remis, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ? Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Et là encore, il y a de l'ironie. Car eux, ils parlent de l'argent qui leur revient. Mais ils ignorent à ce stade jusqu'à quel point Dieu est en train d'orchestrer tous ces détails pour la réconciliation qui va suivre. C'est souvent ainsi, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour une petite chose qu'il nous donne, tout en ignorant que derrière la scène, il est en train d'agir de façon beaucoup plus grande qu'on aurait pu penser ou imaginer. Comment réagit-il Jacob lorsque ses frères ou ses fils rentrent pour reprendre Benjamin? Fin du chapitre 42. « Mon fils ne descendra pas avec vous. » Jacob, donc, fait preuve du même égoïsme dont les frères étaient coupables plus tôt dans l'histoire. Il est content de laisser l'un de ses fils périr en Égypte car il s'en fiche de celui-là, faisant preuve toujours de son favoritisme que nous avons déjà mentionné. Donc voilà où nous en sommes, au début de cette magnifique section du récit, le dénouement du récit, les chapitres 43, 44, 45. Tous ces chapitres sont à lire en détail, et je vous encourage à faire cela si vous êtes en famille, pourquoi pas, même cet après-midi, après avoir mangé, au lieu d'être sur un écran, pourquoi pas lire ça en famille, cela fera du bien. Alors, comment procéder? Je vais souligner, comme vous voyez, je pense, dans les livrets, quelques éléments clés pour le dénouement de cette histoire, des éléments qui ajoutent une couche d'ironie dramatique encore plus grande que Moïse, l'auteur de ce récit, aurait pu, lui, anticiper. Car Moïse, bien entendu, ne connaissait pas Jésus-Christ comme nous le connaissons. Et Dieu, l'auteur ultime de ce texte, dans sa providence a orchestré les choses pour que nous soyons ici, ce matin même, pour que nous lisions ces chapitres aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus-Christ. Et donc, nous lisons avec une compréhension encore plus importante, profonde, que Moïse, par rapport à ces éléments que Moïse met en avance dans ces chapitres. Ces éléments, si vous voulez, établissent quelques modes de fonctionnement de Dieu auprès des hommes qui trouvent leur point culminant dans l'évangile de Jésus-Christ. Et cela, c'est notre objectif ultime. Adrien nous a déjà dit cela, de devenir, à travers notre lecture de la parole de Dieu, des disciples du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que pour vous, dans votre quotidien, Dieu paraît aussi très peu présent, très peu à l'œuvre pour vous. Mais il est à l'œuvre. Et ce matin, nous sommes invités à en être conscient, à voir la main souveraine de notre Dieu sur chacun d'entre nous. Car le Dieu de la Bible, nous ne pouvons pas lui échapper, mais nous pouvons, par contre, nous confier en lui. Et c'est ça ce que nous sommes invités à faire. Donc, quatre éléments pour le dénouement de cette histoire. D'abord, Judas, le leader sacrificiel. Oui, dans le chapitre 43, c'est Judas, et pas Joseph, qui prend le devant de la scène. Judas, rappelons-nous de lui, celui qui a concocté le plan de vendre Joseph en esclavage pour du gain financier. Judas qui a maltraité sa belle-fille Tamar au chapitre 38, qui se comportait en hypocrite et avec du mépris envers elle. Mais le Judas que nous rencontrons dès maintenant au chapitre 43, c'est un autre homme. Voilà pourquoi nous parlons de sa conversion à la fin du chapitre 38. À la fin du chapitre 42, c'était Ruben, le frère aîné, qui avait essayé de persuader Jacob en proposant encore un autre péché, parce qu'il voulait que ses fils soient garantis, mettra à mort mes deux fils, disait Ruben, si je ne te ramène pas Benjamin. Ben, Ruben se révèle tout au long de l'histoire comme étant un homme trop impulsif, trop faible pour mener les autres, à la proie, lui l'aîné, de ses frères plus jeunes, plutôt qu'un leader qui mène ses frères dans la bonne direction. Judas, quant à lui, ici, ne se sert plus de la manipulation, mais il fait preuve de la compréhension et de la compassion qu'il faut pour que les autres te suivent. Il explique à son père la situation dans laquelle il se trouve. Le besoin de grains, le besoin d'amener Benjamin avec eux, comme disait Joseph. Et il raisonne donc de façon juste. Et cela inspire la confiance de Jacob. Verset 9, il se porte garant lui-même. Et il parle des catégories que Jacob comprend. Si je ne te le ramène pas, je serai toujours coupable d'un péché envers toi. Il comprend la peine de son père. Il comprend qu'il qualifierait la perte de Benjamin comme un péché. Jacob fait preuve d'avoir bien écouté alors son père. Et Jacob dit ensuite, puisqu'il en est ainsi, il donne la permission qu'il reparte en Égypte. Et cette même compassion est évidente lorsque Joseph, au chapitre 44, exige que Benjamin soit pris en esclave une fois que la coupe est retrouvée dans son sac. Nous avons sauté cette partie de la lecture. Pour rappel, c'est Joseph qui organisait l'emplacement d'une coupe dans le sac de Benjamin. Il a fait exprès pour reproduire les mêmes circonstances que Joseph, lui, devait connaître au chapitre 37. Donc, il favorise Benjamin lors du repas avec les frères à la fin du chapitre 43. Il fait exprès, il donne 5 fois de plus à Benjamin. C'est Benjamin qui est doté donc, de cette plus grande portion que les autres. C'est Benjamin qui est clairement le plus jeune quand Joseph les fait asseoir dans l'ordre de leur âge. La question derrière, c'est seront-ils encore jaloux des deux fils de Rachel, ses autres frères? Seront-ils jaloux de ce favoritisme dont Jacob faisait preuve? Seront-ils encore contents, donc, de se débarrasser de Benjamin? Et Judas réagit comment alors, verset 16? Ce n'était pas nous qui avons volé cette coupe, mais lui. Et tu sais quoi? J'ai toujours trouvé ce frère un peu énervant. Tu peux le prendre. Non. Sa réponse est très révélatrice, n'est-ce pas? Que te dire, mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Donc, au lieu de réclamer qu'ici, ils sont innocents, ce qui est le cas, après tout, ils n'ont pas volé cette coupe, mais Judas a la prescience de situer leur culpabilité dans un contexte plus large. Dieu, il dit, nous a trouvés en faute. La faute d'il y a 20 ans les rattrape. Comme disait Samuel la semaine dernière, en citant Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récoltera. Judas reconnaît cela. Et au lieu d'accepter ce que Joseph propose, que Benjamin soit pris en esclave, Judas comprend qu'il faut une autre réponse. Nous sommes, collectivement les frères, tes esclaves aussi, bien que celui aux mains de qui on a trouvé la coupe. Joseph, bien entendu, il refuse cette proposition-là. Et ensuite, Judas démontre également sa compassion envers son père. Quand il explique à Joseph à quel point son père aime Benjamin, à quel point il avait aimé Joseph, le frère de Benjamin, également, Judas parle comme si Benjamin, c'est le seul autre fils de Jacob. Pourtant, Judas, il est aussi un fils de Jacob. Nous pouvons supposer à quel point cette injustice de la part de Jacob, son favoritisme, n'a pas contribué à la formation des hommes bien équilibrés dans cette famille par la suite. Mais ici, Judas ne réclame pas justice, mais use de compassion envers son père. Comme toute personne qui fait preuve de compassion, il se met dans les souliers de l'autre pour apprécier l'intensité de l'amour de son père pour Rachel, la façon par laquelle Jacob avait été trahi par Laban, qu'il était contraint donc de travailler pour lui, qu'il avait donc cette amertume par rapport à toute autre personne à part sa femme, Rachel. Judas semble compatir avec cela, même si lui, il n'est pas le fils de Rachel non plus. Il semble compatir avec la peine de son père avancé en âge, même si en partie, sa peine est juste. Il voit combien la perte de Joseph lui a fait du mal et combien effectivement le non-retour de Benjamin enverra Jacob à sa mort. Et il ne veut pas cela. Il sait que son père ne mérite pas cela, car il sait, après tout, qu'il est à la racine de la perte de Joseph, lui, Judas. C'est lourd en émotion, cette partie du récit. Car bien sûr, donc, sans le savoir, il révèle la peine de son père à Joseph lui-même. Et il démontre, du coup, sans le savoir, à Joseph, qu'il comprend, lui, Judas, le poids de sa faute. Même s'il ne pouvait pas, à ce moment-là, en parler ouvertement, parce qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de Joseph. Que lui propose-t-il à la fin de ce discours? Chapitre 43, toujours verset 33. Maintenant, je t'en prie, laisse-moi rester à la place du garçon, comme ton esclave. Laisse le garçon remonter avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Que je ne vois pas le malheur qui atteindrait alors mon père. Son amour va jusqu'à ce point-là. Au lieu de protéger sa peau, il propose sa peau pour la peau de son frère. Pour que la réconciliation ait lieu, il faut un leader sacrificiel. Et Judas, dans cette histoire, devient ce leader. Et bien sûr, en ce faisant, il nous pointe vers Jésus-Christ, le leader sacrificiel par excellence. Lui, il était innocent à tous égards. Et il s'est substitué, lui, pour nous, les coupables. Et ce n'est pas qu'il était prêt à le faire, comme c'était le cas pour Judas. C'est qu'il l'a fait. Il l'était sans péché. Mais nous dit le Nouveau Testament, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il est mort, lui, juste pour nous, les injustes, afin de nous amener à Dieu, un leader sacrificiel. Deuxième élément, Joseph, l'homme qui revient à la vie. Ce deuxième élément, je pense, frappe dans le récit, si nous le lisons dans son ensemble. C'est le drame de la révélation de l'identité de Joseph. C'est après le plaidoyer de Judas pour que Benjamin soit libéré, que Joseph sait que ses frères font preuve de maturité et donc de confiance. Et il est ému. Et il donne l'ordre au début du chapitre 45, que les intendants quittent la salle et ils pleurent fort, cela s'entend. Et puis il le dit, verset 3, « Je suis Joseph ». Et il veut être rassuré tout de suite que son père est effectivement en vie. Mais ses frères n'arrivent pas à lui répondre. Cela se comprend, non? Quel choc immense pour eux. Celui qu'ils ont méprisé, qu'ils ont laissé pour mort, se trouve maintenant devant leurs yeux comme l'homme avec l'autorité sur toute l'Égypte. Ils étaient saisis d'épouvante, nous dit ce texte. On peut traduire cela « terrifié ». C'est le même mot employé dans le psaume 2, verset 5, pour parler de la réaction de Dieu par rapport aux hommes qui se sont rebellés contre lui, contre son autorité. On entend là que Dieu leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Joseph, alors, il doit répéter la même chose. Et donc, il continue, « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. » Pour être réconcilié avec Joseph, ils doivent faire face à sa présence, la réalité qu'il existe encore, qu'il est là. Et c'est tellement inattendu de leur part qu'il doit le répéter une nouvelle fois au verset 12. « Vous le voyez de vos yeux et Benjamin, mon frère, le voit de ses yeux. C'est bien moi qui vous parle. » Et à la fin du chapitre, lorsque les frères rejoignent leur père, Jacob, pour l'amener avec eux en Égypte, que lui disent-ils? Verset 26, « Joseph est encore en vie, il est vivant. » Verset 28, Jacob le répète, « Joseph est encore en vie. » Jacob, lui, bien sûr, croyait que son fils était mort, c'est ça ce que ses autres fils lui ont dit. Mais non, il est vivant. Et Jacob, bien sûr, il veut le voir. C'est une histoire donc de résurrection. Oui, pas à ce stade d'une résurrection physique, mais une résurrection tout de même. On l'avait laissé pour mort, jeté au fond d'une citerne. On l'avait vendu en esclavage. En ce qui les concerne, Joseph était mort. Mais il est revenu à la vie pour régner. Et tout d'un coup, ça change tout, n'est-ce pas? C'est le moment charnière de toute cette histoire en Genèse. Tout comme la résurrection de Jésus-Christ, le sera, toutes ces années plus tard, de ces événements que nous venons de lire. Car Jésus était bel et bien mort, réellement mort, physiquement mort. Et pourtant, il est revenu à la vie. Rappelons-nous de ses premiers disciples qui ne pouvaient pas le croire, nous dit l'évangile de Luc. Ils avaient aussi peur devant sa présence. Jésus devait leur dire deux fois que la paix soit avec vous. Ensuite, les disciples avaient annoncé avec joie que le Seigneur est vivant. La résurrection de Joseph préfigure en miniature la résurrection de Jésus. Nous l'avons déjà chanté, nous, ce matin, notre premier chant. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tout le temps. Il est vivant, le Seigneur. Et quelle joie de découvrir que celui qui est revenu à la vie, celui qui a toute autorité alors sur les hommes, il est un souverain miséricordieux, notre troisième élément. Et de nouveau, d'abord, on parle de Joseph. Lorsque Jacob envoie les frères en Égypte, il prépare des cadeaux que la coutume nécessitait lorsqu'on entrait dans la présence de quelqu'un de puissant. Et il dit, verset 14 du chapitre 43, que le Dieu puissant vous accorde la compassion de cet homme. Et lorsque Joseph les voit, lorsqu'il voit Benjamin, verset 30 du même chapitre, le même mot compassion est employé. Il était profondément ému, ou il avait de la compassion à la vue de son frère. Et une fois qu'il dévoile son identité, il pleure devant ses frères. Verset 15 du chapitre 45. On peut imaginer toujours la méfiance de ses frères à ce moment-là. C'est Joseph, le Joseph qui les avait suppliés dans sa détresse au fond de la citerne, mais eux, ils ne l'ont pas écouté. Mais au cœur de Joseph, il n'y a pas d'amertume, ni de vengeance, ni besoin de les humilier pour qu'ils reconnaissent la faute. Non, il y a de la compassion, de la bonté. Verset 5, il parle avec de la compassion. Ne vous affligez pas. Il sait qu'ils vont ressentir cette honte. Il leur dit de façon fraternelle lorsqu'il les envoie retrouver Jacob. Verset 24, ne vous querellez pas en chemin. Oui, comprends très bien le danger d'un Ruben ou d'un Simeon dans ce groupe. Je vous avais dit, n'est-ce pas? Il comprend qu'ils vont avoir envie de régler leur compte. Et donc, il leur dit de ne pas poursuivre ce chemin-là. Il pourvoit à leurs besoins, vous avez remarqué ça? Pour le voyage, que leur donne-t-il au verset 22 du chapitre 45? Des habits de fête. Cela de la part de celui qui a été abandonné par ses frères, car il portait, lui, un habit de fête donné par son père. Joseph aurait pu les traiter avec justice, mais il les traite plutôt avec grâce, avec le pardon. Dieu, nous dit le texte qu'Adrien nous avait lu tantôt, est riche de compassion. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. Et qu'est-ce qu'il dit après l'apôtre Paul? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Sa grâce à lui, c'est son initiative envers nous. Que pouvaient-ils réclamer de leur côté, les frères, par rapport à Joseph? Rien! Ils sont coincés, ils le savent. Et du coup, ils réclament la bonté de celui qui a le pouvoir sur eux. Et nous faisons de même. Nous venons à celui qui est doux et humble de cœur, qui donne du repos à ceux qui s'appuient sur lui. Peut-être que tu as entendu que le nouvel album d'Adèle est sur le point de sortir. Vous ne connaissez pas Adèle? Une chanteuse britannique avec une voix très interpellante. Le nouvel album s'intitule 30. Le dernier, c'était 25. Avant cela, c'était 21. Et avant cela, 19. Donc, elle vieillit. C'était l'âge qu'elle avait quand elle commençait à écrire ce nouvel album. Ça sort, je pense, dans une semaine ou deux. Et elle dit en partie, cet album est composé de chants pour aider son fils Angelo à mieux comprendre la séparation de ses parents il y a 2 ans. Et voici ce qu'elle dit. Si je pouvais identifier la raison pour laquelle je suis parti, qui était la poursuite de mon propre bonheur, même si cela a rendu Angelo vraiment malheureux, si je peux trouver ce bonheur que je cherchais et qu'il peut voir que je suis heureuse, alors peut-être que je pourrais me pardonner pour ce que j'ai fait. Évidemment, nous ignorons, moi j'ignore les détails de cette séparation, la raison de son mécontentement. Et ce n'est pas à moi ni à vous de porter jugement sans savoir les faits, bien entendu. Mais ces propos en eux-mêmes sont tellement malheureux, n'est-ce pas? Elles témoignent d'une culpabilité, le besoin qu'elle a du pardon. Mais ce pardon pourrait s'effectuer comment? Si elle arrive à trouver son bonheur à elle. Et qui lui pardonnera à ce moment-là? Elle-même. Et donc, elle se projette comme victime d'elle-même, ce qui la permet d'être la personne qui lui pardonne, ce qui signifie qu'elle justifie ainsi la poursuite de son propre bonheur. Nous avons besoin d'un pardon, non pas de nous-mêmes, chers amis, même pas de quelqu'un d'autre, même si c'est peut-être le cas. Mais nous avons besoin du pardon de Dieu. Et là, nous pouvons être sûrs de ce pardon, car cela ne dépend pas de la recherche de notre propre bonheur, mais de celui qui a laissé de côté son propre bonheur pour garantir le nôtre. Nous avons un souverain miséricordieux. Revenons donc à Joseph. Qu'est-ce qui lui permettait de faire preuve de cette bonté, de cette grâce? Dernier élément qu'on aborde ensemble, le Seigneur, le Dieu souverain qui pourvoit pour son peuple. Le Dieu souverain qui pourvoit pour son peuple. Nous retombons ici sur ce thème majeur, déjà évoqué à plusieurs reprises, mais qui arrive à son comble, n'est-ce pas? Au chapitre 45, le verset 5, Joseph dit ceci, « Car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Verset 7, « Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. » En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Alors ici, écoutons bien. Ce n'est pas que les frères ont fait donc du bien en faisant du mal à Joseph. Non, ce n'est pas ça ce que Joseph leur dit. Ce n'est pas non plus que le mal qu'ont fait les frères a été ensuite récupéré par le Seigneur, qui a pu transformer cela en bien. Non. C'est que d'une façon souveraine, au-dessus de notre compréhension, à travers l'acte mauvais, Dieu souverainement était à l'œuvre pour opérer le bien. Joseph voit la main souveraine de Dieu à l'œuvre tout au long de cette histoire. Pas pour excuser les frères de la faute, mais pour que sa propre réaction à lui soit temporisée, quand il voyait simultanément la bonté de Dieu à l'œuvre, pour sauver des vies, pour délivrer sa famille, pour garantir le futur de la descendance d'Abraham. Dieu sauve et pourvoit pour son peuple, et cela par les meilleurs moyens possibles. S'ils sont venus en Égypte à pied, ils rentrent à la fin du chapitre 45 en chariot égyptien. Et nous voyons donc ce principe aussi d'un Dieu souverain sur les événements mauvais, sur les actes mauvais des hommes, de façon encore plus profonde lorsque nous parlons de notre Sauveur, n'est-ce pas? Qu'à travers un acte méchant, mauvais, les manigances des chefs religieux, de Pilate, d'Hérode, des soldats qui se sont moqués de Jésus, tout cela était mauvais. Mais en même temps, au travers du même événement, Dieu souverainement le voulait pour le bien, pour effectuer la délivrance de tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ crucifié. À travers cet acte, nous sommes délivrés, pardonnés. Et ce principe d'un Dieu souverain au-dessus du mal nous permet de contempler et la gloire et la grandeur de notre Dieu, n'est-ce pas? Car tout en tenant le mal en horreur, lorsqu'on contemple la croix, nous pouvons remercier le Seigneur pour la croix. C'est ça ce que font les chrétiens. L'apôtre Paul parle de se vanter, se glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Car à travers elle, même si les hommes agissaient de façon mauvaise, Dieu est à l'œuvre. Ce principe vaut pour d'autres détails, bien entendu, de nos vies, chers amis. Nous en avons déjà évoqué cela, de pouvoir distinguer le mal d'un acte, d'un événement, mais de ne pas être détruits nous-mêmes par cet acte. Car le Dieu qui nous aime en Christ, le Dieu qui orchestre tout, y compris ce mal auquel je dois faire face, il le fait pour le bien de ceux qu'il aime. Comment est-ce qu'il fait cela? C'est au-delà de notre portée. Mais qui le fait? Bien sûr que oui. Il ne faut jamais minimiser les effets du mal autour de nous dans nos vies. Mais le chrétien peut se permettre de lever le regard plus haut que le mal vers le Dieu souverain et bon qui veut notre bien. Ainsi, nous ne sommes pas détruits par ce mal, mais nous nous approchons de Dieu pour faire face à nos défis avec foi. Et dans un sens, en terminant, c'est là notre objectif en tant que rassemblement. Un rassemblement d'hommes et de femmes qui traversent les hauts et les bas de nos vies, mais non pas aveuglement, subissant le hasard total. Non, ni dans un esprit de rétribution, de vengeance. Non, nous reconnaissons la bonté de Dieu qui nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ, en nous confiant à cette bonté, peu importe les circonstances difficiles qui sont devant nous. Et c'est pour cela que j'aimerais terminer avec le verset 15 de ce chapitre 45. Après avoir parcouru ensemble ces quatre éléments clés pour que la réconciliation ait lieu. Que dit le verset 15 avec une couche très humaine, n'est-ce pas? après cela, ses frères purent parler avec lui. Le pardon, la compassion permet la réconciliation. J'aurais bien aimé, moi, assister à cette conversation, cette première conversation de ses frères avec Joseph. Joseph, par où pouvons-nous commencer? Réconcilier avec Dieu, oui. Mais aussi, du coup, nous, les uns avec les autres. Malgré nos défauts, malgré nos différences, malgré parfois notre culpabilité, notre honte, nos présupposés injustes, nos propos bien égoïstes. Savoir, chers amis, que nous sommes pardonnés par notre Dieu, nous permet aussi de nous parler les uns aux autres. Nous permet de nous approcher des autres avec de l'humilité, mais aussi avec une certaine confiance. Confiance non pas en nous-mêmes, mais confiance qu'en moi-même et toi aussi, si tu es chrétien, nous avons ensemble connu le pardon qui vient de Dieu. Et tout comme le Christ nous a aimés, avec un amour sacrificiel, nous sommes appelés à aimer les uns les autres, à marcher dans les souliers des autres, de mettre les intérêts des autres au-dessus de nos propres intérêts. Remercions le Seigneur pour la richesse de sa parole et pour cet appel qu'il nous donne à glorifier Jésus-Christ pour son œuvre. Prions ensemble. Nous voulons en effet, notre Dieu, être ceux qui se vantent dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, nous voyons de façon tellement claire ta souveraineté à l'œuvre, ton miséricorde pour des pécheurs. Nous voyons également que Jésus n'est pas resté sur la croix, mais il est revenu à la vie, il règne. Mais il règne de façon à ce que nous pouvons nous confier en lui, parce qu'il est un leader sacrificiel. Quelle joie que nous avons de confesser Jésus-Christ ensemble. Et donne-nous de faire cela encore cette semaine, et cela pour ta gloire, nous te prions. Amen.